Chapitre 2. Dans la salle obscure, de grands pans de toile couvraient le balcon et les loges. L'orchestre était revêtu d'une housse immense qui, retroussée sur les bords, laissait place à quelques figures humaines pâlissant dans cette ombre, comédiens, machinistes, costumiers, amis du directeur, mères et amants d'actrices. Des yeux s'allumaient çà et là dans le creux noir des baignoires. On répétait pour la 56e fois la nuit du 23 octobre 1812, drame célèbre vieux de 20 ans et qui n'avait pas encore été représenté à ce théâtre. La pièce était sue et l'on avait fixé au lendemain cette dernière répétition particulière que, sur les scènes moins austères que l'Odéon, on nomme la répétition des couturières. Nanteuil n'était pas de la pièce, mais elle avait eu affaire ce jour-là au théâtre, et comme on lui avait dit que Marie-Claire était exécrable dans le rôle de la générale Mallet, elle était venue voir un peu, cachée au fond d'une baignoire. La grande scène du 2 commençait. Le décor représentait une mansarde de la maison de santé où le conspirateur était détenu en 1812. Durville, qui tenait le rôle du général Mallet, venait de faire son entrée. Il répétait en costume, longue redingote bleue, avec le collet par-dessus les oreilles, culotte chamois à pont. Et déjà même, il s'était fait une tête, la tête glabre et martiale des généraux de l'Empire, avec la patte de lièvre qui passe ça des vainqueurs d'Austerlitz à leurs fils, les bourgeois de Juillet. Debout, le coude droit dans la main gauche et le front dans la main droite, il exhalait l'orgueil de sa voix profonde et de sa culotte collante. Seul, sans argent, du fond d'une prison, s'attaquer à ce colosse qui commande 1 million de soldats et qui fait trembler tous les peuples et toutes les lois de l'Europe, eh bien, ce colosse s'écroulera. Du fond de la scène, le vieux Maury, qui faisait le conspirateur, Jacquemont, donna la réplique. « Oh, il peut en tombant nous écraser dans sa chute !» Soudain, des cris à la fois plaintifs et furieux s'élevèrent de l'orchestre. L'auteur éclatait. C'était un homme de 70 ans qui bouillait de jeunesse. « Mais qu'est-ce que je vois là au fond? C'est pas un acteur, c'est une cheminée. Il faudra faire venir les fumistes, les marbriers pour l'ôter de là. Maury, remets-vous donc, sacrebleu !» Maury passa. « Il peut en tombant nous écraser dans sa chute. » « Je reconnais que ce ne sera pas de votre faute, général. Votre proclamation est excellente. Vous leur promettez une constitution, la liberté, l'égalité. C'est du machiavélisme. » Durville répliqua. « Et du meilleur. Race incorrigible, ils s'apprêtent à violer les serments qu'ils n'ont pas faits encore. Et parce qu'ils mentent, ils se croient des Machiavel. Le pouvoir absolu, qu'en ferez-vous donc, imbécile ?» La voix stridente de l'auteur grinça. « Mais vous n'y êtes pas, Deauville !»« Moi ?» demanda Durville étonné. « Oui, vous, Deauville, vous ne comprenez pas un mot de ce que vous dites !» Pour humilier les cabots, pour abattre leurs superbes, cet homme, qui de sa vie n'avait oublié le nom d'une crémière ou d'un portier, dédaignait de retenir les noms les plus illustres comédiens. Allez, Deauville, mon ami, reprenez-moi ça. Il jouait tous les rôles. Joyeux, funèbre, violent, tendre, impétueux, caressant, il prenait une voix tour à tour grave et flûtée. Il soupirait, il rugissait, il riait, il pleurait. Il se transformait, ainsi que l'homme du conte populaire, en flamme, en fleuve, en femme, en tigre. Dans les coulisses, les comédiens n'échangeaient entre eux que des propos insignifiants et brefs. Leur liberté de parole, leur facilité de mœurs, la familiarité de leurs habitudes ne les empêchaient pas de garder ce que dans toute réunion d'hommes, Il faut d'hypocrisie pour que les gens puissent se regarder les uns les autres sans horreur et sans dégoût. Même il régnait dans cet atelier d'art en pleine activité une belle apparence d'accord et d'union, un sentiment unanime créé par la pensée, haute ou médiocre, de l'auteur, un esprit d'ordre qui obligeait toutes les rivalités et tous les mauvais vouloirs à se changer en bonne volonté et en harmonieux concours. Nanteuil, dans sa loge, se sentait mal à l'aise en pensant que Chevalier était là, tout près. Depuis l'avant-veille et depuis la nuit où il avait proféré d'obscures menaces, elle ne l'avait pas revue, et la peur qu'il lui avait faite restait en elle. « Félicie, pour éviter un malheur, je te conseille de ne plus revoir Ligny. » Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle réfléchissait sur lui sérieusement. Ce garçon, qui l'avant-veille encore lui semblait insignifiant et banal, qu'elle avait bien trop vu, qu'elle savait par cœur, comme il lui apparaissait maintenant mystérieux et plein de secrets, comme elle s'apercevait tout d'un coup qu'elle ne le connaissait pas. De quoi était-il capable? Elle s'efforçait de le deviner. Qu'allait-il faire? Rien, sans doute. Tous les hommes qu'on quitte menacent et ne font rien. Mais Chevalier était-il un homme tout à fait comme les autres? On le disait fou, c'était une manière de parler. Mais elle ignorait elle-même s'il n'y avait pas en lui un peu de folie. À présent, elle l'étudiait avec un certain intérêt. Très intelligente, elle ne lui avait jamais trouvé beaucoup d'intelligence. Mais il l'avait surprise plusieurs fois par l'obstination de sa volonté. Elle se rappelait de lui des actes d'énergie sauvage. Naturellement jaloux, il y avait des choses qu'il comprenait. Il savait à quoi une femme est obligée pour se faire une place au théâtre ou pour avoir des toilettes, mais il ne voulait pas qu'on le trompât par amour. Était-ce un homme à commettre un crime, à faire un malheur? Voilà ce qu'elle ne pouvait découvrir. Elle se rappelait la manie que ce garçon avait de manier des armes. Quand elle allait le voir rue des Martyrs, elle le trouvait toujours dans sa chambre, démontant et nettoyant un vieux fusil. Pourtant, il ne chassait jamais. Il se vantait d'être un excellent tireur et portait un revolver sur lui. Mais qu'est-ce que cela prouvait? Jamais encore elle n'avait tant pensé à lui. Nanteuil s'inquiétait ainsi dans sa baignoire quand Jenny Fagette vint l'y rejoindre. Jenny Fagette, fine et frêle, la muse d'Alfred de Musset, qui, la nuit, brûlait ses yeux de pervenche à rédiger des courriers mondains et des articles de mode. Comédienne médiocre, mais femme adroite, merveilleusement active, c'était la meilleure amie de Nanteuil. Elles se reconnaissaient l'une à l'autre de grandes qualités et des qualités différentes de celles qu'elles se trouvaient à elles-mêmes, et elles agissaient de concert comme les deux grandes puissances de l'Odéon. Cependant, Fagette faisait tout son possible pour prendre Ligny à son amie, non par goût, mais car elle était sèche comme un portrait et méprisait les hommes, mais dans l'idée qu'une liaison avec un diplomate lui procurait certains avantages, et surtout pour ne pas perdre l'occasion d'être rosse. Nanteuil le savait. Elle savait que toutes ses camarades et l'ennemi dit Duvernay, Herschel, Falampin, Stella, Marie-Claire, voulait lui prendre Ligny. Elle avait vu Louise Dalle habillée comme une maîtresse de piano, ayant toujours l'air d'escalader l'omnibus et gardant jusque dans ses provocations et ses frôlements les apparences d'une irrémédiable honnêteté, poursuivre Ligny de ses jambes trop longues et l'obséder de ses regards de pasifaille pauvre. Et elle avait surpris dans un couloir la doyenne, cette bonne mère Raveau, découvrant à l'approche de Ligny ce qu'il lui restait encore, ses magnifiques bras, depuis 40 ans illustres. Fagette montra à Nanteuil avec dégoût d'un bout de doigt ganté la scène sur laquelle s'alitaient Durville, le vieux Maury et Marie-Claire. « Regarde-moi ces gens-là, ils ont l'air de jouer à 60 mètres sous l'eau. »« C'est parce que les herses ne sont pas allumées, » observa Nanteuil. « Non, 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 ce théâtre a toujours l'air d'être au fond de l'eau. » Et dire que moi aussi, tout à l'heure, je vais entrer dans l'aquarium. Nanteuil, il ne faut pas que tu restes plus d'une saison dans ce théâtre, aussi noir. Mais regarde-les donc. Durville devenait presque ventriloque pour paraître plus grave et plus mâle. La paix, l'abolition des droits réunis et de la conscription, une haute solde pour la troupe, à défaut d'argent, quelques mandats sur la banque. Quelques grades distribués à propos. Ce sont là des moyens infaillibles. Madame Douce entra dans la loge. Ayant entr'ouvert son manteau tragiquement doublé d'antiques peaux de lapin, elle découvrit un petit livre écorné. Ce sont les lettres de Madame de Sévigné, dit-elle. Vous savez que je fais dimanche prochain une lecture des plus belles lettres de Madame de Sévigné. « Où ça ?» demanda Fagette. « Sale renard !» Ce devait être une salle ignorée et lointaine. Nanteuil et Fagette ne la connaissaient pas. « Oui, je donne cette lecture au bénéfice de 3 pauvres orphelins qu'a laissé l'artiste Lacour, mort si tristement de phtisie cet hiver. Mais mignonne, je compte sur vous pour placer les billets. C'est vrai tout de même qu'elle est ridicule, Marie-Claire. » dit Nanteuil. On gratta à la porte de la baignoire. C'était Constantin Marc, le jeune auteur d'une pièce que l'Odéon allait mettre tout de suite en répétition, La Grille. Et Constantin Marc, bien que campagnard et vivant dans les bois, ne pouvait plus désormais respirer que dans le théâtre. Nanteuil devait jouer le grand rôle de la pièce. Il la regardait avec émotion comme l'amphore précieuse destinée à contenir sa pensée. Cependant, Durville s'enrouait. « Eh, si la France ne peut être sauvée qu'au prix de notre vie et de notre honneur, je dirais avec l'homme de 93, périsse notre mémoire !» Fagette désigna du doigt un jeune homme bouffi qui se tenait la canne sous le menton à l'orchestre. « Est-ce que ce n'est pas le baron Deutz ?»« Tu le demandes ?» répondit Nanteuil. Hélène Midi est de la pièce. Elle joue dans le 4, alors le baron Deutz est venu se montrer. « Attendez un peu, mes enfants. Je vais dire un mot à un malotru qui m'a rencontré hier sur la place de la Concorde et qui ne m'a pas salué. Le baron Deutz, il ne t'a pas vu ?» Oui, il m'a parfaitement vu, mais il était en famille. Oh, je vais le moucher. Vous allez voir, mes amis. » Elle l'appela tout doucement. « Deutz, Deutz !» Le baron approcha et vint s'accouder, souriant et satisfait, au rebord de la baignoire. « Dites donc, monsieur Deutz, hier, quand vous m'avez rencontré, vous étiez donc en bien mauvaise compagnie que vous ne m'avez pas salué. » Il la regarda, surpris. « Moi, j'étais avec ma sœur. » « Ah ?» Et sur la scène, Marie-Claire, suspendue au cou de Durville, s'écriait « Va, triomphe ou succombe, dans la bonne ou la mauvaise fortune, ta gloire est égale. » « Et quoi qu'il arrive, je saurai me montrer la femme d'un héros. »« Passez, madame Marie-Claire, » dit Branel. À ce moment, Chevalier fit son entrée, et tout aussitôt l'auteur, s'arrachant les cheveux, vomit des imprécations. « Ben, c'est pas une entrée, c'est un écoulement, c'est une catastrophe, c'est un cataclysme. Bonté divine !» Un bolide, un aérolite, un morceau de la lune tomberait sur la scène que ce ne serait pas un si effroyable désastre. Je retire ma pièce. Allez, chevalier, recommencez votre entrée, mon garçon. » Le peintre, qui avait dessiné les costumes, Michel, jeune homme blond à la barbe mystique, était assis à la première travée sur un bras de fauteuil. Il se pencha à l'oreille de Roger, le décorateur. « Et dire que c'est la 56e fois qu'il attrape Chevalier avec cette impétuosité, l'auteur. »« Oh, tu sais, il est bigrement mauvais, Chevalier, » répondit Roger sans hésitation. « Oh non, c'est pas qu'il est mauvais, » reprit Michel avec indulgence. « Mais il a toujours l'air de rire, et rien une pie pour un comique. Je l'ai connu tout petit à Montmartre. À la pension, ses maîtres lui demandaient « Pourquoi riez-vous ?»« Ben, il ne riait pas. Il n'avait pas envie de rire. Il recevait des gifles toute la journée. Ses parents voulaient le mettre dans les produits chimiques. Mais il rêvait le théâtre et passait ses journées sur la butte, dans l'atelier du peintre Montalant. Montalant travaillait alors, nuit et jour, à sa mort de Saint-Louis, une grande machine qui lui était commandée pour la cathédrale de Carthage. Alors un jour, Montalant lui dit « Un peu de silence !» cria Pradel. Lui dit « Chevalier, puisque tu n'as rien à faire, pose-moi donc Philippe le Hardi. » « Je veux bien, » dit Chevalier. Montalant lui fit prendre l'attitude d'un homme accablé de douleur. De plus, il lui plaqua sur les joues de larmes grandes comme des verres de lunettes. Il termine son tableau, l'expédie à Carthage, et fait monter 6 bouteilles de champagne. 3 mois après, il recevait du père Cornemuse, chef des missions françaises en Tunisie, une lettre lui annonçant que le tableau de la mort de Saint-Louis, ayant été mis sous les yeux du cardinal archevêque, avait été refusé par son éminence à cause de l'expression indécente de Philippe le Hardi, qui regardait en riant le Saint-Roi, son père, expirant sur la paille. Montalant n'y comprenait rien. Il était furieux et voulait faire un procès au cardinal archevêque. Il reçoit son tableau, le déballe, le contemple dans un sombre silence et s'écrie tout à coup « C'est vrai que Philippe le Hardi a l'air de se gondoler. » « Oh, j'ai été stupide. Je lui ai donné la tête de chevalier, qui a toujours l'air de rire, l'animal. »« Taisez-vous donc !» hurla Pradel. Et l'auteur s'écria. « Allez, Pradel, mon bon ami, jetez-moi tout ce monde-là dehors. » Il mettait en scène infatigablement. « Un peu plus en arrière, Trouville, là, bon. » « Chevalier, vous vous approchez de la table, vous prenez les papiers les uns après les autres et vous dites « Senatus consulte, ordre du jour, dépêche pour les départements, proclamation, comprenez-vous ?»« Oui, maître, Senatus consulte, ordre du jour, dépêche pour les départements, proclamation. » « Allô, Marie-Claire, mon enfant, du mouvement, sacrebleu. Passez. Bon, c'est ça, très bien. Repassez. Très bien, hardi donc. Oh, la misérable, mais fout tout par terre. » Il appela le directeur de la scène. « Romilly, donnez un peu de lumière, on y voit goutte. » « Deauville, mon bon ami, mais qu'est-ce que vous faites là, devant le trou du souffleur ? Vous n'en bougez pas. Mettez-vous donc une fois pour toutes dans la tête que vous n'êtes pas la statue du général Mallet, que vous êtes le général Mallet lui-même et que ma pièce n'est pas un catalogue de figures de cire, mais une tragédie vivante, émouvante, qui vous arrache des larmes et... » Il ne put achever et sanglota longtemps dans son mouchoir. Puis il rugit. « Mais sacré tonnerre, Pradel! Romilly, mais où est Romilly ? Oh, le voilà le gredin. Romilly, je vous avais dit, de rapprocher le poète de le poil de la lucarne. Vous ne l'avez pas fait, à quoi pensez-vous, mon ami ? On se trouvait arrêté tout à coup par une difficulté grave. Chevalier, porteur de papier d'où dépendait le sort de l'Empire, devait s'échapper de la maison d'arrêt par la lucarne. Le jeu de scène n'avait pas été réglé encore. Il n'avait pu l'être avant la plantation du décor. Et l'on s'apercevait que les mesures avaient été mal prises et que la lucarne n'était pas praticable. L'auteur sauta sur la scène. « Mais Romy, mon ami, le poil n'est pas au repère. Mais comment voulez-vous que Chevalier passe par la lucarne ? Allez, poussez-moi tout de suite ce poil à droite. » « Je veux bien, dit Romy, mais nous boucherons la porte. »« Comment nous boucherons la porte ?»« Parfaitement. » Le directeur du théâtre, le directeur de la scène, les machinistes examinaient le décor avec une morne attention et l'auteur se taisait. « Bon, ne vous inquiétez pas, maître, dit Chevalier. Il n'y a besoin de rien changer. Je sauterai bien. » Monté sur le poêle, il parvint en effet à saisir le bord de la lucarne et à s'élever sur les coudes, ce qui n'avait pas semblé possible. Un murmure d'admiration s'éleva de la scène, des coulisses et de la salle. Chevalier avait donné une idée étonnante de sa force et de son adresse. « Très bien !» s'écria l'auteur. « Chevalier, c'est parfait, mon ami. Mais cet animal-là est agile comme un singe. Pas un de vous ne serait fichu d'en faire autant. Si tous les rôles étaient tenus comme celui de Florentin, la pièce irait au nu. » Nanteuil, dans sa loge, l'admirait presque. Pendant une seconde, il lui était apparu plus comme homme égoré, et la peur qu'elle avait de lui s'était démesurément agrandie. Elle ne l'aimait pas, elle ne l'avait jamais aimé. Elle ne le désirait pas. Oh, le temps était loin où elle avait bien voulu de lui. Et depuis quelques jours, elle n'imaginait pas le plaisir avec un autre que Ligny. Mais si elle s'était trouvée en ce moment seule avec Chevalier, elle se serait sentie sans force et elle aurait tâché de l'apaiser par sa soumission, comme on apaise une puissance surnaturelle. Sur la scène, pendant qu'un salon empire descendait les frises, l'auteur, dans le bruit de la manœuvre, sous la chute des portants, tenait à la fois dans sa main toute la troupe et tous les figurants, et donnait en même temps à tous des conseils ou des exemples. « Vous, la grosse, la marchande de gâteaux, madame Bravo, vous n'avez donc jamais entendu crier dans les Champs-Élysées ? Régalez-vous, voilà le plaisir, mesdames. Ça se chante, allez, apprenez-moi cet air-là pour demain. Et toi, le tapin, allez, passe-moi ta caisse. Je vais t'enseigner comment on fait un roulement, sacrebleu. Fagette, mon enfant, mais qu'est-ce que tu viens fiche au bal du ministre de la police ? Si tu n'as pas de bas à coin d'or, allez, enfile-toi des bas de laine tricotées, tout de suite. Pouh, c'est bien la dernière pièce que je donne à ce théâtre. Où est le colonel de la 10e cohorte ? C'est toi ? Eh bien, mon ami, tes soldats défilent comme des porcs. Madame Marie-Claire, approchez un peu, que je vous apprenne à faire la révérence. Il avait 100 yeux, 100 bouches, et des bras, des mains partout. Dans la salle, Romilly serrait la main à M. Gambeau, les sciences morales venues en voisin. « Vous direz ce que vous voudrez, M. Gambeau. C'est peut-être pas exact au point de vue des faits, mais c'est théâtre. »« La conspiration de Malais, répondit M. Gambeau, reste et restera sans doute longtemps encore une énigme historique. » L'auteur de ce drame a profité des points obscurs pour y introduire des éléments dramatiques. Mais ce qui pour moi est hors de doute, c'est que le général Malais, bien qu'associé à des royalistes, était lui-même républicain et travaillait à rétablir le gouvernement populaire. Il prononça dans son interrogatoire une parole sublime et profonde. Quand le président du conseil de guerre lui demanda « Quels étaient vos complices ?» Malheur répondit « Toute la France et vous-même, si j'avais réussi !» Appuyé à la loge de Nanteuil, un vieux sculpteur, vénérable et beau comme un satyre antique, contemplait, l'œil humide et la bouche riante, la scène en ce moment agitée et bouleversée. « Êtes-vous content de la pièce, maître ?» lui demanda Nanteuil. Et le maître, qui ne connaissait au monde que des os, des tendons et des muscles, répondit « Oh oui, mademoiselle, oh oui, il y a là une petite, la petite Midi, qui a une attache d'épaule, un joyau. » Il la dessina du pouce. Des larmes lui venaient aux yeux. Chevalier demanda s'il pouvait entrer dans la baignoire. Il était content, moins encore de son prodigieux succès, que de voir Félicie. Il s'imaginait dans sa folie qu'elle était venue pour lui, qu'elle l'aimait, qu'elle se redonnait. Elle le craignait, et comme elle était peureuse, elle le flatta. « Mes compliments, chevalier, oh, tu as été étourdissant. Ta sortie est étonnante. Oh, tu peux me croire, je ne suis pas seul à le dire. Fagette aussi t'a trouvé prodigieux. Vrai ?» demanda chevalier. Ce moment fut un des plus heureux de sa vie. Une voix stridente, partie des hauteurs désertes des troisièmes galeries, traversa la salle comme un sifflet de locomotive. « On ne vous entend pas du tout, mes enfants. Parlez plus haut et prononcez distinctement. » Et l'auteur apparut, infiniment petit, dans les ténèbres de la coupole. Alors la voix des acteurs, groupée sur le devant de la scène, autour d'un flambeau de bouillotte, s'éleva plus distincte. L'empereur laissera reposer 3 semaines les troupes à Moscou, puis il s'élancera avec la rapidité de l'aigle à Saint-Pétersbourg. Pique, trèfle, à tout, je marque 2 points. Là, nous passerons l'hiver, et un printemps prochain, nous pénétrerons dans l'Inde en traversant la Perse, et ça sera fait de la puissance britannique. 3600 carreaux. Et moi, impérial d'as. À propos, messieurs, que dites-vous du décret impérial sur les comédiens de Paris daté du Kremlin? Voilà les querelles de Mademoiselle Mars et de Mademoiselle Levert terminées. Regardez donc, dit Nanteuil, elle est très gentille, Fagette, dans sa robe bleue Marie-Louise, garnie de chinchilla. Madame Douce tira de dessous ses fourrures une botte de billets fanés, déjà pour être trop offert. « Maître, dit-elle à Constantin Marc, vous savez que je fais dimanche prochain une lecture des plus belles lettres de Madame de Sévigné, avec commentaire au bénéfice des 3 pauvres orphelins qu'a laissé l'artiste Latour, qui est mort cet hiver d'une manière si déplorable. Avait-il du talent ? Demanda Constantin Marc. Oh, pas du tout, dit Nanteuil. Eh bien, alors en quoi sa mort est-elle déplorable? Oh, maître, soupira Madame Nouls, n'affectez pas l'insensibilité. Je n'affecte pas l'insensibilité, mais il y a une chose qui me surprend. C'est le prix que nous attachons à des existences qui ne nous intéressent en rien. Nous avons l'air de croire que la vie est en elle-même quelque chose de précieux. Pourtant, la nature nous enseigne assez que rien n'est plus vil, n'est plus méprisable. Autrefois, on était moins barbouillés de sentimentalisme. Chacun tenait sa propre vie pour infiniment précieuse, mais ne professait aucun respect pour la vie d'autrui. On était alors plus près de la nature. Nous sommes faits pour nous manger les uns les autres. Mais notre race faible, énervée, hypocrite, se plaît dans un cannibalisme sournois. Tout en nous entre-dévorant, nous proclamons que la vie est sacrée, Ils n'osent plus avouer que la vie, c'est le meurtre. Mais la vie, c'est le meurtre, répéta Chevalier, songeur et sans comprendre. Puis il jaillit en idées fumeuses. Oh, le meurtre et le carnage, peut-être. Mais le carnage amusant et le meurtre drôle. La vie, c'est la catastrophe burlesque, c'est le comique terrible, c'est le masque de carnaval sur des joues sanglantes. Voilà ce que c'est que la vie pour l'artiste. L'artiste au théâtre et l'artiste en action. Nanteuil, inquiète, cherchait un sens à ces paroles confuses. L'acteur exalté poursuivit. La vie, c'est autre chose encore. C'est la fleur et le couteau. C'est de voir rouge un jour et bleu le lendemain. C'est la haine et l'amour, la haine délicieuse et ravissante, l'amour cruel. Monsieur Chevalier, demanda Constantin Marc, du ton le plus tranquille, ne trouvez-vous pas naturel d'être meurtrier, et ne croyez-vous pas que c'est seulement la peur d'être tué qui nous empêche de tuer ? Chevalier répondit d'une voix pensive et profonde. Oh non, certes, non. Ce n'est pas la peine d'être tué qui m'empêcherait de tuer. Je n'ai pas peur, moi, de la mort. Mais j'ai le respect de la vie d'autrui. Je suis humain, c'est plus fort que moi. J'ai sérieusement examiné depuis quelque temps la question que vous me posez, monsieur Constantin Marc. J'y ai réfléchi pendant des jours et des nuits, et je sais maintenant que je ne pourrai tuer personne. Alors Nanteuil, joyeuse, versa sur lui un regard de mépris. Elle ne le craignait plus, et elle ne lui pardonnait pas de lui avoir fait tant peur. Elle se leva. « Bonsoir, j'ai mal à la tête. À demain, monsieur Constantin Marc. » Et elle sortit lestement. Chevalier la poursuivit dans le couloir, dévala derrière elle l'escalier de la Seine et la rejoignit devant la loge du concierge. « Félicie, viens dîner ce soir avec moi au cabaret. Je serai si content, veux-tu ? Oh non, par exemple. Mais pourquoi ne veux-tu pas ? Laisse-moi tranquille, tu m'ennuies. » Elle voulut s'échapper, il la retint. « Mais je t'aime tant, ne me fais pas trop souffrir. » Elle s'avança sur lui, et, les lèvres retroussées, serrant les dents, lui siffla aux oreilles. « Mais c'est fini, 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 tu entends? J'en ai soupé de toi. » Alors, très doux, très grave, « c'est la dernière fois que nous causons tous deux. Écoute, Félicie, avant qu'il y ait un malheur, je dois t'avertir. Oh, je ne peux pas te forcer à m'aimer. Mais je ne veux pas que tu en aimes un autre. Pour la dernière fois, je te conseille de ne pas revoir M. de Ligny. Je t'empêcherai d'être à lui. Tu m'en empêcheras, toi, pauvre ami. » Plus doucement encore, il répondit. « Oh, je le veux, je le ferai. On obtient ce qu'on veut, seulement. Il faut y mettre le prix. » Rentrée chez elle, Félicie eut une crise de larmes. Elle revoyait Chevalier l'implorant d'une voix lamentable avec un air de pauvre. Elle avait entendu cette voix et vu cette mine aux cheminots exténués sur la route, quand sa mère, craignant que sa poitrine ne se prît, l'avait emmenée passer l'hiver à Antibes chez une tante riche. Elle méprisait Chevalier de sa douceur et de sa tranquillité, mais le souvenir de ce visage et de cette voix lui faisait mal. Elle ne put rien manger. Elle avait des étouffements. Le soir, une angoisse si cruelle la prit aux entrailles qu'elle eut peur de mourir. Elle pensa qu'elle éprouvait un tel énervement parce qu'elle était restée 2 jours sans voir Robert. Il était 9 heures, elle espéra le trouver encore chez lui et mit son chapeau. « Maman, il faut que j'aille ce soir au théâtre, je file. »« par égard pour sa mère, elle usait ainsi d'un langage voilé. « Va, mon enfant, ne rentre pas trop tard. » Lydie habitait chez ses parents. Il avait, sous les combles du joli hôtel de la rue Vernet, un petit appartement de garçon éclairé par des fenêtres rondes et qu'il appelait son œil de bœuf. Félicie le fit avertir par le portier qu'on l'attendait dans une voiture. Lydie n'aimait pas que les femmes vinssent trop souvent le relancer dans sa famille. Son père, diplomate de carrière, très occupé des intérêts extérieurs de la France, demeurait dans une ignorance incroyable de ce qui se passait chez lui. Même Madame de Ligny se montrait attentive à faire observer les convenances dans sa maison. Et son fils était soucieux de satisfaire des exigences qui portaient sur les formes sans jamais s'étendre au fond des choses. Elle le laissait entièrement libre d'aimer qui il voulait, et c'est à peine si parfois, en de graves épanchements, elle lui donnait à entendre que la fréquentation de femmes du monde est utile aux jeunes gens. Aussi Robert avait-il toujours détourné Félicie de venir rue Vernet. Il avait loué, boulevard de Villiers, une petite maison où il pouvait se voir tout à l'aise. Mais, cette fois, après 2 jours passés sans elle, il fut très content de sa visite imprévue et descendit tout de suite. Blottis dans le fiacre, ils allèrent à travers l'ombre et la neige au pas tranquille du Canasson, par les rues et les boulevards, et l'épaisse nuit enveloppa leurs amours. L'ayant ramené à sa porte, « À demain, dit-il. »« Oui, à demain, boulevard de Villiers, viens de bonne heure. » Elle s'appuyait sur lui pour descendre de voiture. Brusquement, elle se rejeta en arrière. « Là, là, entre les arbres, il nous a vus, il nous guettait. »« Qui donc ?»« Un homme que je ne connais pas. » Elle venait de reconnaître Chevalier. Elle descendit, sonna et, tremblante, attendit, plongé dans la pelisse de Robert, que la porte s'ouvrit. Puis elle le retint. « Robert, monte avec moi, j'ai peur. » Non, sans un peu d'impatience, il la suivit dans l'escalier. Chevalier avait attendu Félicie dans la petite salle à manger, devant l'armure de Jeanne d'Arc, en compagnie de Madame Nanteuil, jusqu'à 1 heure du matin. Puis il était descendu et l'avait guetté sur le trottoir, et quand il avait vu le fiacre s'arrêter devant la porte, il s'était dissimulé derrière un arbre. Il savait bien qu'elle reviendrait avec Ligny, mais en les voyant ensemble, il avait semblé que la terre s'entr'ouvrait, et pour ne pas tomber, il s'était retenu au tronc de l'arbre. Il resta jusqu'à ce que Ligny fût sorti de la maison. Il l'observa, qui, serré dans sa pelisse, gagnait sa voiture, fit 2 pas pour s'élancer sur lui, s'arrêta, puis à grand pas descendit le boulevard. Il allait, chassé par la pluie et le vent. Ayant trop chaud, il ôta son feutre et prit plaisir à sentir les gouttes d'eau froide sur son front. Il eut une vague conscience que des maisons, des arbres, des murs, des lumières passaient indéfiniment à ses côtés. Il allait, songeant. Il se trouva, sans savoir comment il était venu, sur un pont qu'il connaissait à peine, au milieu duquel se dressait une statue colossale de femme. Maintenant il était tranquille, il avait pris une résolution. C'était une vieille idée qu'il avait cette fois enfoncée dans son cerveau comme un clou et qui le traversait de part en part. Il ne l'examinait même plus. Il calculait froidement les moyens d'exécuter ce qu'il avait résolu. Il marcha devant lui, au hasard, absorbé, pensif, calme comme un géomètre. Sur le pont des Arts, il s'aperçut qu'un chien le suivait. C'était un grand chien rustique à longs poils, dont les yeux verts ronds, pleins de douceur, exprimaient une détresse infinie. Il lui parla. « Tu n'as pas de collier, tu n'es pas heureux, mon pauvre ami. » Ben, je peux rien pour toi. » À 4 heures du matin, il se trouva dans l'avenue de l'Observatoire. Découvrant les maisons du boulevard Saint-Michel, il en ressentit une impression douloureuse et brusquement rebroussa vers l'Observatoire. Le chien avait disparu. Près du lion de Belfort, le chevalier s'arrêta devant une tranchée profonde qui coupait la chaussée. Contre le remblai, sous une bâche soutenue par quatre pieux, un vieil homme veillait devant un brasier. Les oreilles de son bonnet de poil de lapin étaient rabattues. Son nez énorme flamboyait. Il leva la tête. Ses yeux, qui pleuraient, paraissaient tout blancs, sans prunelles, dans un cercle de feu et de larmes. Il fourrait au fond de son brûle-gueule quelques brins de tabac de cantine, mêlés à des mis de pain qui n'emplissaient même pas à demi le fourneau de la petite pipe. « Voulez-vous du tabac, le vieux ?» demanda le chevalier en lui tendant sa blague. L'homme fut lent à répondre, il ne comprenait pas vite, et les politesses l'étonnaient. Enfin, il ouvrit une bouche toute noire. « Oh, c'est pas de refus » dit-il. Et il se souleva à demi. Un de ses pieds était chaussé d'un vieux soulier, l'autre entouré de linge. Lentement, de ses mains engourdies, il bourrait sa pipe. De la neige fondue tombait. « Vous permettez ?» dit chevalier. Et il se coula sous la bâche à côté du vieil homme. De temps en temps, ils échangeaient une parole. « Bon, sale temps. Oh, c'est un temps de saison. L'hiver est dur, oui, l'été est préférable. Alors vous gardez le chantier la nuit, bonhomme ?» Le vieux répondit volontiers aux questions. Avant qu'il parlât, sa gorge faisait entendre un susurrement très long et très doux. « Ouais, je fais un jour une chose, un jour l'autre. Je bricole, quoi. »« Là, vous n'êtes pas de Paris. »« Oh, je suis natif de la Creuse. »« J'ai travaillé comme terrassier dans les Vosges. »« J'en suis parti l'année qu'il est venu du Prussien et d'autres peuples. »« Oh, il y en avait des milliers. »« On ne peut pas comprendre d'où ils venaient. » T'as peut-être entendu parler de cette guerre des Prussiens, bon garçon. » Il resta longtemps sans parler, puis... « Alors comme ça, t'es embordé, bon garçon. Tu veux pas rentrer au chantier ?»« Je suis artiste dramatique, » répondit Chevalier. Le vieux, qui ne comprenait pas, redemanda « Où qu'il est, ton chantier ?» Chevalier voulut être admiré du vieillard. « Oh, je joue la comédie dans un grand théâtre, » dit-il. « Je suis un des principaux acteurs de l'Odéon. Vous connaissez l'Odéon ?» Le gardien secoua la tête. Il ne connaissait pas l'Odéon. Après un très long silence, il rouvrit sa bouche noire. « Alors comme ça, mon garçon, t'es embordé. Tu veux pas rentrer au chantier, pas vrai ?» Chevalier lui répondit. « Lisez le journal après-demain, vous y verrez mon nom. » Le vieil homme essaya de trouver un sens à ses paroles, mais c'était trop difficile. Il y renonça et revint à ses pensées familières. « Quand on est embordé, c'est des fois pour des semaines et des mois. » Au petit jour, le chevalier reprit sa course. Le ciel était de lait. Les roues lourdes réveillaient les pavés. Des voix, çà et là, résonnaient dans l'air frais. La neige ne tombait plus. Il allait au hasard devant lui. À voir renaître la ville, s'égayait presque. Sur le pont des Arts, il regarda longtemps couler la Seine, puis il reprit sa course. Sur la place du Havre, il vit un café ouvert. Une faible lueur d'aurore rougissait les glaces de la façade. Les garçons sablaient le carrelage et posaient les tables. Il se jeta sur une chaise. « Garçon, une verte !» Dans le fiacre, par-delà les fortifications où s'allongeait le boulevard désert, Félicie et Robert se tenaient pressés l'un contre l'autre. « Tu ne l'aimes pas, ta Félicie ?» dit. « Est-ce que ça ne te flatte pas d'avoir une petite femme qu'on acclame, qu'on applaudit et dont on parle dans les journaux ?»« Maman colle dans un album les articles qu'on fait sur moi. L'album est déjà rempli. » Il me répondit qu'il n'avait pas attendu qu'elle eût du succès pour la trouver charmante. Et de fait, leur liaison avait commencé lorsqu'elle débutait obscurément à l'Odéon dans une reprise ignorée. Mais quand tu m'as dit que tu ne voulais pas, que tu me voulais, je ne t'ai pas fait attendre, hein? Ça a été fait tout de suite. N'est-ce pas que j'ai eu raison? Tu es trop intelligent pour me juger mal de ce que je n'ai pas traîné les choses. En te voyant pour la première fois, j'ai senti, moi, que je serais à toi. Alors ce n'était pas la peine de tarder. Je ne regrette pas, et toi? Le fiacre s'arrêta à peu de distance des fortifications, devant une grille de jardin. La grille, qui n'avait pas été peinte depuis longtemps, posait sur un mur enduit de caillouetage assez bas et assez large pour que les enfants vinssent s'y percher. Elle était aveuglée à mi-hauteur par une plaque de tôle dentelée et ne haussait pas à plus de 3 mètres du sol ses points trouillés. Au milieu, entre 2 piliers de maçonnerie, surmontés de vases de fonte, cette grille formait une porte à double battant, pleine à sa partie inférieure et garnie au-dedans d'une jalousie vermoulue. Ils descendirent de voiture. Les arbres du boulevard dressaient sur 4 lignes, dans la brume, leur léger squelette. On entendait, à travers un vaste silence, le bruit décroissant de leur fiacre qui regagnait la barrière et le trot d'un cheval venant de Paris. Elle dit en frissonnant « Oh, comme c'est triste, la campagne !»« Mais ma chérie, le boulevard de Villiers, ce n'est pas la campagne !» Il ne réussissait pas à ouvrir la grille, et la serrure grinçait. Agacée, elle lui dit « Ouf, je t'en prie, ce bruit me fait mal aux nerfs !» Elle s'aperçut que le fiacre venu de Paris était arrêté près de leur maison, à la distance d'une dizaine d'arbres. Elle observa le cheval maigre et fumant, le cocher sordide, et demanda « Qu'est-ce que c'est que cette voiture ?»« C'est un fiacre, ma chérie. »« Et pourquoi s'arrête-t-elle ici ?»« Mais il ne s'arrête pas ici. Il s'arrête devant la maison, à côté. » Il n'y a pas de maison à côté, il y a un terrain vague. Eh bien, il s'arrête devant un terrain vague. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je ne vois personne en sortir. Ben, le cocher attend peut-être un voyageur. Devant le terrain vague? Sans doute, ma chérie. Oh, cette serrure est rouillée. Elle alla, en se dissimulant derrière les arbres, jusqu'à l'endroit où le fiacre s'était arrêté. Puis elle revint vers Ligny, qui avait enfin réussi à ouvrir la grille. « Robert, les stores sont baissés. »« Bien, c'est qu'il y a des amoureux dedans. »« Est-ce que tu trouves pas que ce fiacre est bizarre ?»« Oh, il n'est pas beau, mais tous les fiacres sont vides. Allez, entre. »« Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui nous suit ?»« Mais que veux-tu qu'il nous suive ?»« Ben, je ne sais pas. » Une de tes femmes. Mais elle ne disait pas ce qu'elle pensait. Mais entre donc, ma chérie. Quand elle fut rentrée, referme bien la grille, Robert. Devant eux s'étendait une petite pelouse ovale. Au fond s'élevait la maison, avec son perron de 3 marches, sa marquise de zinc, ses 6 fenêtres et son toit d'ardoise. Ligny l'avait prise en location pour une année à un vieil employé de commerce dégoûté de ce que les rôdeurs lui volaient la nuit ses poules et ses lapins. Des 2 côtés de la pelouse, une allée sablée conduisait au perron. Ils prirent l'allée qui était à leur droite. Le sable criait sous leurs pas. « Oh, aujourd'hui encore, » dit Ligny, « Madame Simoneau a oublié de fermer les volets. » Madame Simoneau était une femme de Neuilly qui venait tous les matins faire le ménage. Un grand arbre de Judée, tout penché qui semblait mort, allongeait jusqu'à la marquise une de ses branches rondes et noires. « Oh, je n'aime pas bien cet arbre, » dit Félicie. « Ses branches ont l'air de gros serpents. Il y en a une qui est presque dans notre chambre. Ils montèrent les trois marches du perron. Et tandis qu'ils cherchaient dans le trousseau la clé de la porte, elle posa sa tête sur son épaule. Félicie avait, dans ses dévoilements, une fierté tranquille qui la rendait adorable. Elle montrait un si paisible orgueil de sa nudité que sa chemise à ses pieds semblait un pan blanc. Et quand Robert la vit nue et claire comme les ruisseaux et les étoiles, « Oh, moi, lui dit-il, tu ne devais pas prier, toi. C'est singulier. Il y a des femmes qui, sans même qu'on leur demande, rien du tout, font tout ce qu'il est possible de faire et ne veulent pas qu'on leur voie pendant ce temps-là seulement un petit bout de peau. « Et pourquoi ?» demanda Félicie en jouant avec les fils légers de sa chevelure. Robert de Ligny avait la pratique des femmes. Pourtant, il ne savait, on ne sentit pas combien cette question était insidieuse. Il avait reçu des enseignements moraux et il s'inspira dans sa réponse des professeurs dont il avait suivi les cours. « Oh, cela tient sans doute, dit-il, à l'éducation, à des principes religieux, à un sentiment inné qui subsiste alors même que... » Ah, ce n'était point ainsi qu'il fallait répondre. Car Félicie, haussant les épaules et mettant les poings sur ses hanches polies, l'interrompit vivement. « Mais tu es naïf, toi. C'est qu'elles sont mal faites, l'éducation, la religion. Oh, mais ça me fait bouillir d'entendre des choses pareilles. Est-ce que j'ai été plus mal élevé que les autres? Est-ce que j'ai moins de religion qu'elles? Dis donc, Robert, combien as-tu vu de femmes bien faites? Compte un peu sur tes doigts. Oui, il y en a des tas de femmes qui ne montrent ni leurs épaules ni rien. Tiens, Fagette, elle ne se montre même pas aux femmes. Pendant qu'elle passe une chemise blanche, elle tient la vieille entre ses dents. Bien sûr que j'en ferais autant si j'étais bâti comme elle. » Elle se tut, s'apaisa et, tranquille dans son orgueil, elle coula lentement la paume de ses mains sur ses flancs, sur ses reins, et dit fièrement « Ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il n'y en a pas trop. » Elle savait ce que l'élégante minceur de ses formes donnait de grâce à sa beauté. Maintenant, sa tête renversée baignait dans la chevelure blonde qui coulait de toutes parts. Son corps gracile, un peu soulevé par un oreiller glissé sous les reins, était étendu sans mouvement. Une jambe allongée au bord du lit brillait et le pied aigu la terminait en pointe d'épée. La clarté du grand feu allumé dans la cheminée dorait cette chair, faisait palpiter des lumières et des combres sur ce corps inerte, le revêtait de splendeur et de misère, tandis que les vêtements et le linge couchés sur les meubles, sur le tapis, attendaient comme un troupeau docile. Elle se souleva sur son coude et la joue dans la main. « Maman, tu es bien le premier. Alors je ne te le mens pas, les autres, ça n'existe pas. » Il n'était pas jaloux du passé, ne craignait pas les comparaisons. Il la questionna. « Alors les autres? Oh, d'abord, il n'y en a eu que deux. Mon professeur, naturellement, celui-là ne compte pas. Et puis, celui que j'ai dit, un homme sérieux. » Que ma mère m'avait donné. Pas d'autre? Non, non, je te jure. Et chevalier? Lui, oh non, par exemple. Oh, tu voudrais pas? Et l'homme sérieux que ta mère t'avait donné, il ne compte pas non plus? Alors, je t'assure qu'avec toi, je suis une autre femme. Ah, bien vraiment, tu es le premier qui m'ait eu. C'est drôle tout de même. Dès que je t'ai vu, je t'ai voulu. Tout de suite, j'ai eu envie de toi. J'avais deviné. À quoi? Je serais bien embarrassé de le dire. Oh, je n'ai pas réfléchi. Avec tes manières correctes, sèches, froides, ton air de petit loup bichonné, tu m'as plu, voilà. Maintenant, je ne pourrais pas me passer de toi. Oh non, je ne le pourrais pas. Il assura qu'en la possédant, il avait eu de délicieuses surprises et il lui dit des choses caressantes et jolies que toutes avaient été dites avant lui. Elle lui prit la tête dans ses mains. « C'est vrai que tu as des dents de loup ? Je crois que c'est tes dents qui le premier jour m'avaient donné envie de toi. Mords-moi. » Il la pressa contre lui et sentit ce corps souple et ferme répondre à son étreinte. Tout à coup, elle se dégagea. « Est-ce que tu n'entends pas crier le sable ?»« Non. »« Écoute, j'entends un bruit de pas dans l'allée. » Assise, repliée sur elle-même, elle tendait l'oreille. Il était déçu, agacé, irrité, et peut-être un peu blessé dans son amour-propre. « Mais qu'est-ce qui te prend ? C'est stupide !» Elle lui cria très sec. « Mais tais-toi donc !» Elle épiait un bruit léger et proche, comme de branches cassées. Tout à coup, elle sauta du lit avec une telle vivacité d'instinct et un mouvement si rapide de jeune animal que Ligny, bien qu'il fût peu littéraire, songea à la chatte métamorphosée en femme. « Mais tu es folle, où vas-tu ? » Elle souleva un bord du rideau, essuya la buée sur un coin de vitre et regarda par la fenêtre. Elle ne vit rien que la nuit. Tout bruit avait cessé. Pendant ce temps, Ligny, rancogné dans la ruelle, moussa de grenier. « Bon, comme tu voudras, mais si toi t'as pas rhume, tant pis pour toi. » Elle se recoula dans le lit. D'abord, il lui garda un peu rancune, mais elle l'enveloppa d'une fraîcheur délicieuse. Et quand ils revinrent à eux, ils furent étonnés de voir à la montre qu'il était 7 heures. Il alluma la lampe, une lampe à pétrole en forme de colonne, avec une ampoule de cristal dans laquelle la mèche s'enroulait comme un ténia. Elle se rhabilla très vite. Ils avaient un étage à descendre par un escalier de bois étroit et noir. Il passa le premier, la lampe à la main, et s'arrêta dans le couloir. « Sors, ma chérie, avant que j'éteigne !» Elle ouvrit la porte et aussitôt elle recula en poussant un grand cri. Elle venait de voir Chevalier sur le perron. Les bras étendus, longs, noirs, dressés comme une croix. Il tenait un revolver à la main. Oh, l'arme ne brillait pas, pourtant elle la vit très indistinctement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ligny, qui baissait la mèche de la lampe. « Écoutez, n'approchez pas !» cria Chevalier d'une voix forte. Je vous défends d'être l'un à l'autre. C'est ma dernière volonté. Adieu, Félicie. » Et il mit dans sa bouche le canon du revolver. Blottie au mur du couloir, elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, Chevalier était couché sur le côté en travers de la porte. Il avait des paupières grandes ouvertes, l'air de regarder, de rire. Un filet de sang coulait de sa bouche sur la dalle du perron. Un tremblement convulsif agitait son bras. Puis il ne bougea plus. Replié sur lui-même, il avait l'air plus petit qu'avant. Au coup de revolver, Ligny était accouru. Il souleva le corps dans la nuit noire. Et tout de suite, le reposant doucement sur la dalle, il frotta des allumettes que le vent soufflait aussitôt. Enfin, dans une lueur, il vit que la balle avait emporté un morceau du crâne et que les méninges étaient mises à découvert sur une surface grande comme le creux de la main, grise et sanguinolente, très irrégulière, et dont les contours lui rappelèrent l'Afrique telle qu'elle est figurée dans les atlas. Et il fut pris devant ce mort d'un respect subit. Il le tira par les aisselles avec des précautions minutieuses jusque dans l'antichambre. Là, il l'abandonna et courut par la maison, cherchant et appelant Félicie. Il la trouva dans la chambre à coucher qui, la tête sous les draps du lit défait, criait « Maman, maman !» et récitait des prières. « Ne reste pas là, Félicie. » Elle descendit avec lui l'escalier. Mais dans le corridor, « Mais tu sais bien qu'on ne peut pas passer. » Il la fit sortir par la porte de la cuisine.